avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Donald Trump à Washington à la veille de son investiture. Le nouveau président américain n'est pas vraiment le bienvenu dans la capitale fédérale. La correspondance de Frédéric Carbone dans un instant. L'armée irakienne consolide ses positions à Mossoul après la reprise des quartiers est de la ville. Les zones libérées sont jonchées d'explosifs. Le reportage d'Oriane Verdier dans cette édition. Folie meurtrière dans les prisons au Brésil. Déjà 130 morts depuis le début de l'année. Le président brésilien Michel Temer envoie l'armée pour rétablir l'ordre. Anne Vigna nous appellera de Rio. En France, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon semblent prendre un malin plaisir à parasiter le dernier débat télévisé de la primaire organisée par le PS. Nous en parlerons avec Sophie Delpont. Paris ouvre un deuxième centre pour les migrants, cette fois réservé aux femmes et aux familles. Un centre humanitaire installé à Ivry-sur-Seine. Reportage dans ce journal. Il ne met pratiquement jamais les pieds à Washington, mais il va devoir y passer les quatre prochaines années. Donald Trump arrive ce soir dans la capitale américaine à la veille de son investiture à la Maison-Blanche. Le nouveau président américain va donc vivre et travailler dans une ville qui ne lui est pas franchement favorable. Il y a obtenu 4,1% des voix à l'élection présidentielle contre 90,9% pour Hillary Clinton. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Pour son atterrissage à Washington, Donald Trump ne sera pas dépaysé. Dans une heure, il présidera chez lui, dans son hôtel de la capitale, un déjeuner avec les principaux responsables républicains. Et ne venez surtout pas dire à son porte-parole, Sean Spicer, qu'il y a le moindre conflit d'intérêts. Je trouve ça intelligent et l'idée ne devrait choquer personne. C'est un endroit magnifique, il en est fier et il symbolise ce qu'il veut faire au gouvernement. Finir en avance et à un coût inférieur aux prévisions. Avant de donner des leçons de bonne gestion, dans la ville qu'il a rejetée le 8 novembre dernier, Donald Trump vient y faire la fête. Il ne quittera pas Washington d'ici à l'investiture. Exceptionnellement, il ne retournera pas dormir à New York la nuit prochaine. Et depuis des jours, il donne rendez-vous à ses partisans sur les réseaux sociaux pour le concert de ce soir.
It's going to be the Make America Great Again celebration.
Ce sera la célébration de l'Amérique à nouveau grande, promet Donald Trump, et il invite tout le monde à venir. Cet événement est ouvert au public, mais l'accès aux dîners et aux bals qui vont rythmer la vie de la capitale sera plus restreint. Pour avoir droit à une table demain, avec une petite visite de courtoisie du couple présidentiel, il fallait payer 1 million. L'investiture de Donald Trump aura battu au moins un record, celui de la levée de fonds la plus massive, près de 100 millions de dollars.
Frédéric Carbone, merci. On reparle de Donald Trump après ce journal dans le grain à moudre. En Irak, la bataille de Mossoul est entrée dans une nouvelle phase cette semaine après les derniers succès militaires de l'armée irakienne. Les soldats de Bagdad affirment contrôler désormais toute la zone est de la ville. Mais avant de lancer l'assaut sur la rive ouest du Tigre, ils doivent sécuriser les quartiers libérés avec une double menace, la présence de djihadistes isolés dans certaines zones et les nombreux engins explosifs disséminés dans les rues et les maisons. Le reportage à Mossoul d'Oriane Verdier.
Dans un quartier de Mossoul Est, des enfants jouent sur un terrain de jeu. Les portiques sont toujours debout mais complètement tordus. Il y a quelques semaines, les combats ont abîmé la balançoire préférée de Moutak et ses amis.
Des mortiers sont tombés sur la mosquée à côté. Avant, tout marchait, mais maintenant, tout est cassé.
La mosquée voisine est aujourd'hui utilisée comme hôpital de première urgence par les forces spéciales irakiennes. Sur le mur mitoyen, deux soldats fument une cigarette et regardent les enfants jouer. Moutak court vers eux, suivi par ses amis.
Le garçon, là, il a touché à une bombe.
Ne fais pas ça.
Pourquoi vous ne la retirez pas?
Une équipe de démineurs va venir, mais pas tout de suite.
N'allez pas vous asseoir là-bas. Il y a des roquettes qui tombent, mais qui n'explosent pas. Et quand les enfants les touchent, elles explosent.
Nous cherchons ce qui dépasse de la terre. Il y en a deux là-bas. Après, on met des cailloux autour pour les signaler.
Quelques rues plus loin, le calme a cédé à la panique. Deux hommes courent vers une ambulance. Chacun d'eux porte un petit corps enroulé dans une couverture. Les deux enfants sont conduits d'urgence au centre médical. Une fois sortis de la salle de soins, le major Ahmad, chef de l'équipe, nous explique.
Les enfants jouaient dans la rue avec une bombe et soudain, ça explose.
L'un est mort, l'autre était blessé. Nous l'avons envoyé à l'hôpital américain de Bartella. Lorsque nous libérons une zone, nous envoyons des démineurs pour qu'ils sécurisent des routes, parce que les djihadistes bloquent des rues et ils les minent. Mais je me souviens qu'il y a deux semaines, un enfant a ramené dans sa famille une grosse bombe. Il jouait avec dans la maison et ça a explosé. 19 personnes ont été blessées.
Il faudra de nombreux mois avant que les zones libérées soient réellement nettoyées des engins explosifs. Pour l'heure, la priorité est la lutte directe contre les djihadistes de l'organisation État islamique. À 3 km du terrain de jeu de Moutak, les combats continuent. Plus de la moitié de la ville est toujours sous l'autorité du groupe terroriste.
Le reportage d'Oriane Verdier, correspondante à Mossoul pour France Culture. L'aviation américaine a frappé aujourd'hui des cibles de l'État islamique en Libye. Plus de 80 djihadistes ont été tués selon le bilan fourni par le secrétaire à la défense Ashton Carter. Ces hommes se trouvaient dans des camps situés à une quarantaine de kilomètres de Sirte, ville de la côte méditerranéenne dont Daesh a été chassé en décembre. Ashton Carter affirme que certains de ces djihadistes préparaient des attaques en Europe. On va maintenant évoquer la situation en Gambie, ce petit pays d'Afrique coincé au milieu du Sénégal qui vit ces jours-ci une grave crise politique. Le président sortant, Yahya Jammeh, s'accroche au pouvoir malgré sa défaite à l'élection présidentielle. Il a décrété l'état d'urgence, ce qui a obligé les pays voisins réunis dans la CDAO à brandir la menace d'une intervention militaire. Quant au président élu, Adama Barrow, il vient de prêter serment, non pas à Banjul, la capitale gambienne, mais à Dakar, dans les locaux de l'ambassade de Gambie. Dakar, où l'on retrouve Guillaume Thibault.
Situation exceptionnelle puisque cette prestation de serment se déroule au sein de l'ambassade de Gambie à Dakar, une simple maison au bout d'un chemin de terre à côté de l'aéroport de la capitale. Des écrans géants ont été installés dans la rue pour permettre au plus grand nombre, mais aussi à la presse, de suivre cet événement car le bâtiment est trop petit pour accueillir tout le monde. Ce choix de l'ambassade se justifie par le fait que la Constitution impose l'organisation de cette investiture sur le territoire gambien. C'est un acte plus que symbolique, une étape importante, essentielle pour que la prise de fonction soit officielle, pour que le nouveau chef de l'État puisse notamment, et Adama Barrow devrait le faire après la cérémonie, saisir la CDAO sur la situation en Gambie, sur le blocage institutionnel imposé par Yahya Jammeh. Une investiture, c'est habituellement une cérémonie millimétrée, très protocolaire, où les chefs d'État viennent en nombre. Ce n'est pas le cas ce jeudi. Aucun chef d'État ne participe. Sont présents Marcel Alain de Souza, le président de la commission de la CDAO, Mohamed Ibn Chambas, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la sous-région, et des ambassadeurs en poste à Dakar. Cette investiture d'Adama Barrow est particulière, car le nouveau président gambien est donc en exil pour son premier jour en tant que chef d'État.
Guillaume Thibault de RFI. Le Brésil vit actuellement une crise carcérale sans précédent. Les émeutes se succèdent dans les prisons brésiliennes. Le bilan humain est très lourd. 130 détenus massacrés en moins de 20 jours. Il s'agit presque exclusivement de règlements de comptes entre prisonniers sur fond de guerre des gangs. Jusqu'à présent, la police brésilienne s'est montrée incapable de mettre un terme à cette boucherie. Le président Michel Temer a donc décidé d'envoyer l'armée pour au moins un an. Anne nous appelle de Rio.
C'est une poudrière que le gouvernement brésilien ne parvient pas à éteindre. Après l'Amazonie, c'est le nord-est du pays qui vit depuis une semaine des mutineries dans plusieurs établissements. Au total, 2000 détenus appartenant à des groupes criminels ont été transférés dans des prisons regroupées selon leur faction criminelle pour assurer leur sécurité. On craint en effet d'autres massacres après un bilan de 130 morts, la plupart des corps étant décapités. Dans les rues également, comme dans la ville de Natal, la police fait face à des scènes de guérilla urbaine en appui aux mutineries. L'entrée de l'armée en prison peut-elle améliorer la situation? Sur le court terme peut-être, mais pas sur le long terme selon les spécialistes. Ils rappellent que les soldats ne sont pas formés aux tâches de police et s'inquiètent du temps donné d'emblée à cette mission des forces armées, un an, sans plus de concertation qu'une réunion entre le président Michel Temer et les gouverneurs des 9 États touchés par cette crise. Le ministre de la Défense a assuré que cette année donc, les soldats réaliseraient bien des fouilles par surprise en prison, mais n'aurait pas de contact avec les détenus. Une affirmation mise en doute par les organisations de défense des droits de l'homme pour qui le recours à l'armée est sujet à beaucoup de caution.
Anne Vigna, merci. Inquiétude en Italie après cette avalanche qui a dévasté un hôtel situé dans le massif du Grand Sasso près de Pescara. Une trentaine de personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement au moment de la coulée de neige. Aucun signe de vie n'émane des décombres pour l'instant et les sauveteurs redoutent un bilan humain très lourd. Cette avalanche L'avalanche intervient au lendemain d'une nouvelle série de secousses sismiques qui a frappé le centre de l'Italie. 21h ce soir, place au dernier débat télévisé de la primaire organisée par le Parti Socialiste. Ultime confrontation entre les 7 candidats avant le premier tour dimanche, avec dans le rôle des favoris Manuel Valls, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Et comme par hasard, les autres candidats à l'Élysée, classés à gauche, se sont invités dans l'actualité politique du jour. Emmanuel Macron a parlé législative ce matin et Jean-Luc Mélenchon sera ce soir à Florange, en Moselle, à la rencontre des ouvriers d'ArcelorMittal. Sophie Delpont, bonsoir.
C'est le retour, c'est pas grave.
Sophie Delpont, est-ce que vous nous entendez ?
Bonsoir.
Bonsoir Sophie, alors vous êtes à Florange où le candidat de la France Insoumise...
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir à vous Sophie. Et je disais donc que Jean-Luc Mélenchon compte bien se faire entendre à quelques heures du débat de la primaire.
Oui, et c'est dans une petite salle de spectacle que Jean-Luc Mélenchon va tenir son meeting à partir de 19h30 ici. Florange, c'est le lieu symbole des promesses non tenues de François Hollande, comme on peut le lire sur la plaque commémorative des anciens ouvriers des Hauts Fourneaux. C'est d'ici que le candidat de la France Insoumise devrait lancer l'offensive sur le bilan des anciens ministres qui participent à la primaire, l'échec et la désindustrialisation. Un peu plus tôt dans la journée, il a rencontré d'anciens ouvriers d'ArcelorMittal, une discussion à huis clos avec des délégués CGT, Sud et CFDT, une manière de peaufiner encore un peu plus son image de candidat du peuple face à des candidats qui, eux, ont échoué au gouvernement. Il va aussi lutter contre la récupération de la misère par le Front National.
Alors Sophie, vous avez aussi assisté ce matin à la conférence de presse d'Emmanuel Macron, qui lui aussi avait à cœur de parler aux Français avant le débat, même s'il n'avait pas grand-chose à dire.
Oui, autre style, mais efficacité maximale ce matin pour Emmanuel Macron, qui a tenu une conférence de presse en 30 minutes chrono pour seulement annoncer qu'il allait se préparer pour les élections législatives et demander aux candidats de s'inscrire sur sa plateforme en ligne. Il a annoncé également qu'il n'y aurait aucune alliance possible avec les autres candidats et avec le vainqueur de la primaire de la gauche. Dans une salle de presse pleine à craquer, un moyen de prouver à nouveau sa force de frappe médiatique pour les modalités de son grand plan de transformation. En revanche, il a juste annoncé qu'il faudra attendre encore le mois de mars prochain.
Merci Sophie Delpont en direct de Florange avec Yvan Turc pour les moyens techniques. La délinquance a baissé en France sous le quinquennat de François Hollande. Voilà ce qu'affirmait ce matin le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, en présentant le bilan 2016. Alors certes, on constate une baisse générale des crimes et délits, mais si l'on rentre dans le détail, il y a des chiffres inquiétants, comme la hausse des homicides et des agressions sexuelles. La France, qui a essuyé ces deux dernières années une vague terroriste sans précédent, avec 238 morts. Ilan Malka, bonsoir.
Bonsoir.
Et cette succession d'attentats islamistes s'est accompagnée justement d'une forte hausse des délits d'apologie du terrorisme.
Oui, ils ont effectivement grimpé en flash ces dernières années. Alors prenons quelques chiffres. En 2014, on dénombrait une dizaine d'exemples par mois d'apologie du terrorisme. En 2015, hausse spectaculaire. 2300 infractions ont été constatées. Et donc l'an dernier, en 2016, le chiffre reste encore très élevé, même s'il a légèrement baissé. Quelques 1850 infractions ont été relevées. Qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Eh bien, tout d'abord, évidemment, le sujet est tristement actuel. Dans un nombre important des cas d'apologie, on relève aussi des infractions d'outrage ou de menaces contre des représentants de l'autorité publique. La violence verbale s'illustre donc alors par des références aux attentats récents. Ensuite, il y a la parole sur les réseaux sociaux, qui est bien sûr très libérée. 15% des cas d'apologie du terrorisme se font via le web, affirme le ministère de l'Intérieur. Enfin, la justice est aussi beaucoup plus impliquée qu'avant sur le sujet. En novembre 2014, la répression a été renforcée. La peine encourue est désormais de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Aujourd'hui, les juges font preuve d'une réelle fermeté. Il y a quelques semaines, un lycéen a écopé de 3 ans ferme pour avoir eu des propos tendancieux sur Internet et avoir consulté des sites djihadistes. Un autre homme a écopé de 6 mois ferme parce qu'il avait chez lui un drapeau de Daesh. Notons enfin que ces infractions-là représentent la très très grande majorité, 85% de tout le contentieux spécifiquement lié au terrorisme relevé par la police et la gendarmerie. Ceci en 2015 comme en 2016.
Ilan Malka, merci. Paris dispose désormais d'un deuxième centre humanitaire pour pour les migrants. Il a ouvert ses portes aujourd'hui à Ivry-sur-Seine, sur un ancien site industriel appartenant à la municipalité parisienne. Le premier centre, rappelons-le, se trouve près de la porte de la chapelle. Il est réservé aux hommes. Celui d'Ivry doit accueillir des femmes seules ou avec enfants, mais aussi des couples. À terme, 400 migrants pourront y trouver refuge. Un hébergement transitoire avant le transfert en CADA, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Christine Moncla, la nouvelle structure est relativement bien acceptée par la population d'Ivry.
Des interrogations, mais pas d'hostilité franche à Ivry-sur-Seine à l'ouverture de ce centre de réfugiés. Le maire Philippe Bouissou estime que la moitié de ses administrés sont même fiers de les accueillir, même si un tiers des habitants, déjà précaires, craignent pour leurs propres aides sociales. C'est pourquoi l'élu communiste a négocié en amont avec Anne Hidalgo des contreparties.
La demande que j'ai formulée à ce moment-là, c'est que sur les 400 places, il y en ait 50 qui soient réservées à des personnes en grande précarité vivant sur le terrain d'Ivry. Donc on va nous aussi bénéficier pour notre population la plus précarisée de ce centre. Et je note également qu'il y a un tiers des emplois recrutés par Emmaüs Solidarité qui ont été réservés à des Ivriens, donc je m'en satisfais.
C'est Emmaüs Solidarité, mandatée par l'État, qui gérera l'accueil. Mais 12 associations locales se sont déjà manifestées pour apporter une aide complémentaire. Non loin du centre des réfugiés, l'association Éveil Parents-Enfants ouvrira ainsi sa crèche parentale et ses ateliers sociolinguistiques aux nouveaux arrivants. Maya Salvado Ferrer en est la responsable.
Ça permettra aussi de pouvoir laisser leur enfant à la crèche et du coup côtoyer d'autres familles, se socialiser autrement que dans ce lieu d'accueil avec justement des familles du quartier. Voilà, donc nous, notre soutien, il est d'être un relais sur le quartier pour les familles qui ont besoin aussi de sortir de ce lieu qui semble très bien mais qui peut être un peu confiné. Et même si les réalités sont un peu différentes, moi je vois quand on met deux mamans ensemble, peu importe d'où elles viennent, elles communiquent et elles ont toujours des choses à se raconter. Et ça permettra, je pense, de faire tomber un peu certaines réticences que peuvent ressentir des familles actuellement d'Ivry. Donc là, une nouvelle population arrive, et on va continuer à créer du lien, de la mixité et de l'acceptation des uns des autres.
Les familles sont censées rester quelques mois, le temps d'examiner leur demande d'asile. Mais quid de ceux qui seraient déboutés? C'est l'inquiétude majeure du maire Philippe Bouissou.
Moi, j'espère que dans ce contexte, il va y avoir un élargissement du droit d'asile et que donc toutes les personnes accueillies, diagnostiquées, pourront intégrer la voie vers un accueil durable au regard de la situation de leur pays d'origine. Mais mon inquiétude, je dirais humaine et politique à la fois, elle réside plus là.
Et pour veiller de près à ces demandes d'asile, la LICRA a de son côté mobilisé 7 avocats bénévoles qui tiendront une permanence à l'intérieur même du centre d'accueil.
Un reportage de Marie-Pierre Véraud avec Christine Moncla. La Cour européenne des droits de l'homme condamne une nouvelle fois la France dans un dossier relatif à la GPA. Paris condamné pour avoir refusé de transcrire les actes de naissance d'enfants nés d'une gestation pour autrui à l'étranger. À l'origine de la procédure, un couple soupçonné d'avoir eu recours en Ukraine à une mère porteuse pour la naissance de jumeaux. La CEDH rappelle que la France peut interdire la GPA sur son sol, mais en aucun cas elle ne peut refuser de reconnaître les enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. La Cour de Strasbourg s'était déjà prononcée en ce sens dans 4 autres affaires depuis 2014, mais cela n'a rien changé aux situations individuelles. Voilà ce que dénonce Caroline Mécari, l'avocate des requérants.
Cette nouvelle condamnation, elle intervient parce que la France refuse d'appliquer la jurisprudence de la Cour, qui est extrêmement claire. Un enfant doit avoir son identité absolument préservée et fait partie de son identité le fait que son acte de naissance étranger soit recopié sur le registre de l'état civil français. Jusqu'à aujourd'hui, le parquet de Nantes, qui est le seul compétent pour pouvoir contrôler les demandes de transcription des actes de naissance, eh bien ce parquet de Nantes refuse d'appliquer directement la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, j'ai encore reçu ce matin des conclusions refusant la transcription des actes de naissance. Les arrêts de la Cour européenne sont applicables par toutes les autorités d'un État qui a été condamné, et ça va même plus loin, par toutes les autorités des États membres du Conseil de l'Europe. Vous savez, il y a dans le code pénal une interdiction de tuer, il y a une interdiction de voler, et pourtant il y a des délinquants qui volent et qui tuent. Eh bien la France, d'une certaine manière, est délinquante face à la jurisprudence de la Cour européenne puisqu'elle refuse d'appliquer la règle claire posée par la Cour européenne dans ses arrêts depuis 2014.
L'avocate Caroline Mécari répondait à Florence Turme. La météo demain, temps toujours très froid et bien ensoleillé sur presque tout le pays. Une dégradation arrivera dans le sud-ouest en cours de journée avec de la neige sur les Pyrénées. Les températures minimales restent glaciales. Moins 4 à moins 8 en moyenne, jusqu'à moins 13 sur les reliefs. Il fera un peu plus doux près de la Méditerranée, entre 0 et 5 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec François-Charles Domergue.